Je suis avec Peter Trippi, qui était anciennement le directeur du Daesh Museum et qui est depuis est l'éditeur en chef, donc le rédacteur en chef de Fine Art Connoisseur, une revue américaine consacrée bien sûr aux expositions et à l'art. Alors Peter est un habitué de la TEFAF, je le rencontre régulièrement dans cette foire et il s'est arrêté devant un tableau dont il va nous dire quelques mots.
Je suis étonné par cette peinture que je n'ai jamais vue avant, qui vient de Londres, chez Hammels. L'artiste est Olaf Segur Nelson, un Suédois, qui a vécu de 1868 à 1896. Et c'est une peinture extraordinaire d'un sculpteur français, Pierre Fixe Massot, posant comme Jésus-Christ. C'est daté de 1895, et c'est fascinant parce que cela rappelle tellement de choses. Le symbolisme, le revival religieux des années 1890, le japonisme avec cet arrière-plan compliqué, très décoratif, cette figure mystique habillée en blanc, obsédante, la barbe en bataille, évidemment la mélancolie. C'est probablement Jésus au Jardin des Oliviers avant sa condamnation. J'aime ça. Je ne peux pas croire, vous savez, vous venez à la TEFAF et vous voyez des choses dont vous n'aviez jamais imaginé qu'elles existaient.
Je suis avec Bertrand Gauthier de la galerie Talabardon et Gauthier qui font la foire de Maastricht pour la première fois et qui présente un objet absolument exceptionnel, incroyable, une espèce de château néo-baroque, néo-classique avec des moulures partout. Je mettrai bien sûr la photo sur le site pour que vous puissiez la voir, mais Bertrand Gauthier va nous la décrire un petit peu et nous dire ce que c'est que cet objet.
Bah d'abord, c'est un château artistique, c'est pas baroque, néo, quelque chose. Non, c'est un château artistique. Et en fait, l'ouvrier, parce que c'est un ouvrier qui a réalisé cette œuvre, c'est un ouvrier des chantiers navals du Havre qui s'appelait Édouard Dubuc, qui est mort en 1900 sur son œuvre, parce qu'en fait, ce château est exposé à l'exposition universelle de 1900. Il a commencé à le réaliser à partir de 1890. Et il revendique son statut d'artiste, exactement comme le facteur cheval. C'est une espèce de facteur cheval, mais du fer et du métal.
Et ce miniature.
Et des miniatures. Il s'inspire directement du dôme à la française de Le Mercier, qui couronnait le bâtiment à l'époque le plus célèbre du Havre, qui était la bourse de commerce. Et il a réalisé cette espèce de cage, parce que je ne sais pas s'il y a eu vraiment des oiseaux qui étaient à l'intérieur. En tout cas, ce château est composé de 148 000 pièces qui sont toutes fondues. Rien n'a été moulé. C'est un travail absolument gigantesque. Il est calculé, le texte qui précise que ce château est composé de 148 000 petits morceaux de divers métaux qui ont été découpés, soudés les uns aux autres. Il a été employé 40 000 épingles pour les oiseaux, quatre panneaux décoratifs, les panneaux décoratifs que vous avez là ici. Chaque panneau décoratif qui sont ici, qui sont composés de cuivre, de zinc, en fait représentent des agamis. Les agamis étaient en fait des animaux qui étaient utilisés en Guyane pour protéger les troupeaux et qui là se défendent d'un redoutable crocodile. À l'autre côté, nous avons un terrible serpent. Et en fait, ces animaux placés à la base de la cage protègent les oiseaux qui sont censés y habiter. Et les oiseaux qui couvrent tout le tour de la cage sont des hirondelles. Ces hirondelles, symbole donc de l'amour que vous avez ici, qu'on retrouve sur ces portes qui s'ouvrent avec tous ces éléments décoratifs. Ce qui est merveilleux, c'est qu'en fait, c'est un mélange d'architecture à la fois savante et en même temps une espèce de folie poétique digne de Brédin. Il ne faut pas oublier que Brédin habitait lui aussi un port, était lui-même ouvrier et lui-même avait une imagination délirante. Brédin, c'était à Bordeaux. Dubuc, c'était au Havre.
Alors, je suis avec trois élèves de la junior entreprise de l'école du Louvre qui donc se promènent dans les allées de Maastricht pour, je crois, un objectif très précis. Donc, Léopold Legros, vous êtes le président de cette association. Pouvez-vous nous dire ce que vous faites ici?
Exactement. Donc, nous sommes ici pour défendre un tableau de Martin van Heemskerk, absolument magnifique, une crucifixion que nous avons déniché dans une petite église du Calvados à Saint-Martin-de-Fresnay. Donc, c'est un village de 200 habitants qui possède dans son église une crucifixion d'Heemskerk digne. On en trouve dans les plus grands musées à Gand, enfin. Bon, voilà, c'est un tableau d'Heemskerk dont le Louvre n'a pas d'équivalent. Et donc c'est dans ce village de 200 habitants et ce tableau est aujourd'hui méconnu et dans un état assez catastrophique.
Alors qu'est-ce que vous recherchez exactement à Maastricht?
Ici on va essayer d'intéresser les plus grands marchands français, voire européens si on est un peu ambitieux, pour essayer de trouver de l'argent pour le restaurer. Parce qu'on pense que c'est un tableau qui, par sa qualité, peut vraiment séduire des marchands de l'envergure de ce qu'on peut trouver à Maastricht.
Édouard Vigneault, vous êtes chroniqueur, historien de l'art, beaucoup de choses, et entre autres spécialiste de la Croix, vous connaissez très très bien de la Croix, et vous vous êtes arrêté devant cette œuvre de la galerie Saint-Lucas, qui est une étude de Pivoine de Jeanne de la Croix. Vous la connaissez cette œuvre ?
Non, je la découvre et j'en suis tout à fait émerveillé, puisque les œuvres de ce type chez Delacroix, on connaît évidemment le bestiaire, on connaît les scènes historiées et différentes choses, mais tout ce qui touche à la botanique, et on sait que Delacroix était un très grand amateur, et il avait l'habitude d'ailleurs, en rendant visite à Georges Sand, à Nohant, de faire des croquis très élaborés au crayon dans ses petits carnets, mais en même temps se laisser de manière assez libre sur la toile avec de la peinture. Et là, on est devant un très très beau morceau de peinture, très enlevé, très libre, qui annonce, on peut le dire, avec quelques années d'avance, la production florale d'un autre artiste éminemment célèbre qui est Renoir. Ce qui est très intéressant, c'est que voilà un lot qui était dans la vente évidemment posthume de 64 de Jeanne Delacroix et qui lui-même faisait partie d'un lot. Donc on avait l'habitude, en ce qui concerne ce genre d'études, de les rassembler par plusieurs, généralement par trois ou quatre. C'était la même chose d'ailleurs pour les petites études de paysage. Et donc ce tableau réapparaît comme ça dans un descriptif assez sommaire de la vente. Il réapparaît sous nos yeux.
Nous sommes devant le stand de Stephen Hongpin Fine Art et devant un dessin de Jean-François Millet, un paysan au travail dans un champ avec George Shackelford, deputy director du Fort Worth Museum of Art. Donc vous vouliez nous montrer ce dessin en particulier, pourquoi ?
C'est un artiste que j'adore parce que quand j'étais à Boston, manifestement un des plus grands collections de Millet dans le monde entier, je me suis habitué à aimer cet artiste que je trouve un des grands dessinateurs du 19e siècle. Et j'ai visité la foire avec une amie de Fort Worth qui est collectionneur de dessins. Et on est tombé sur ce dessin et on le trouvait sublime. C'est un dessin de force, qui a un esprit tellement moderne, un très nerveux et surtout un mise en page très directe, très profonde avec cet homme qui est en train de travailler le champ, de travailler le foin et je trouve le dessin magnifique.
Très bien. Et à Fort Worth, vous avez un tableau de Millet ?
Non, malheureusement pas. Et c'est justement le musée Kimball à Fort Worth n'a pas de tableau de Millet. Et on aimerait bien. C'est un artiste que je trouve formidable. Mais très difficile de trouver un tableau, une peinture de cet artiste sur le marché ces jours-ci qui est vraiment impressionnant et très puissant. Il y a un qui est malheureusement parti déjà pour Japon. J'aimerais bien le suivre. Mais,
qui représente quoi ?
Qui représente un mur dans un forêt. Superbe tableau. Et malheureusement déjà acheté par un musée japonais.
Ah, mais les musées japonais vendent parfois.
Oui, parfois. Bon. J'aimerais bien.
Je suis avec Patrick Ramad, conservateur, directeur du musée de Caen, qui ne manque pas en fait une TFAF. C'est une foire qui vous plaît particulièrement, je crois.
Oui, parce qu'il y a quand même un beau choix, et puis oui, c'est une bonne occasion de prendre un peu le pouls du marché, de l'actualité de ce qu'il y a sur le marché.
Alors presque tous les ans, finalement, vous achetez un beau tableau italien. Est-ce que cette année, vous allez sacrifier la tradition ?
Italien ou français, ou c'est vrai qu'on essaie de continuer à enrichir le fonds du musée de Caen. Cette année, oui, j'espère bien continuer cette forme de tradition que vous évoquez.
Et vous avez un tableau en vue déjà ?
Oui, on a un ou deux tableaux en vue, oui, il faut encore préciser les choses, oui.
Donc vous n'en direz pas plus, mais en tout cas, si vous voulez le savoir, lisez la Tribune de l'Art, nous serons les premiers à les informer, j'espère.
Promis.
Merci. Je suis donc avec Patrice Marandel, directeur en chef au Los Angeles County Museum of Art, en charge de l'art européen. Qu'avez-vous retenu de cette première journée à la TFAF ?
Alors, de cette première journée, c'est, bien sûr, toutes les foires se suivent et ne se ressemblent pas. Pendant très longtemps, enfin, je viens ici depuis, 15 ans, et c'était toujours l'endroit essentiel pour trouver le grand tableau, jamais exposé auparavant, jamais vu. Or, bien sûr, la situation a beaucoup changé maintenant, avec le monde tel qu'il est, moins de tableaux à vendre, les tableaux plus chers, bien sûr, et, comme je le disais, un choix peut-être plus restreint. Pour moi, cette année, mais c'est un choix vraiment personnel, cette année, c'est plutôt l'année de la sculpture. Dieu merci, je m'occupe aussi de sculpture dans mon musée, donc j'ai un choix peut-être un peu plus grand que d'autres qui ne s'occupent que de peinture, sauf qu'il y a quand même encore de très très belles peintures ici.
En sculpture, justement, alors dites-nous de ce que vous avez retenu, parce que la Tribune de l'Art s'intéresse beaucoup à la sculpture également.
Alors, en sculpture, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a quand même deux Bernins, c'est pas mal. L'un, une très très belle, un buste plutôt, en marbre très important, qui a été exposé lors de l'exposition Bernin au Getty il y a quelques années, Getty et puis après au Canada, Ottawa. Et un bronze très important de Mathilde de Canossa, un bronze extraordinaire parce qu'on dirait vraiment une terre cuite. On a besoin de le toucher pour se convaincre que ce n'est pas une terre cuite. C'est une chose très rare dont il existe seulement quelques versions. La plus célèbre étant peut-être au musée de Melbourne en Australie. Ça, ce sont deux choses que je trouve absolument sublimes. Mais il y a aussi de la sculpture du 19e siècle extrêmement intéressante. La sculpture vraiment de toutes les époques, depuis l'art égyptien jusqu'à l'art contemporain même, tout à fait remarquable cette année.
Guillaume Chirouti, donc je vous vois vous promener à la foire de Maastricht. Vous venez toutes les années, tous les ans ?
Chaque année. Cette année avec un tout petit peu de retard, puisque nous avions la vente Marsillac, qui m'a beaucoup occupé à Paris. Mais
dont nous avons parlé sur la Tribune de l'Art, avec des trois préemptions d'ailleurs, sur lesquelles nous avons fait un article.
J'ai lu ça avec beaucoup d'attention, nous avons été très heureux de ces préemptions, qui ont prouvé la qualité de cette vente, de cette collection. Maastricht est un rendez-vous indispensable pour tous les amateurs d'art, et évidemment pour les acteurs du marché. J'y viens pour voir les tendances, les objets qui souvent sont d'ailleurs passés en vente, pour certains en tout cas. Également pour y rencontrer des clients, mais au-delà de ça, c'est un excellent baromètre à la fois de l'évolution du goût. J'ai pu observer au cours des dernières années certains changements de ce point de vue et également de la santé de ce marché. Et on voit que cette année, il y a beaucoup de choses de très grande qualité. Les premiers marchands que j'ai vus me disent que la foire a très bien démarré. Donc c'est un rendez-vous très important. En même temps, nous le faisons comme maison de vente avec beaucoup de respect vis-à-vis des antiquaires et des galeristes qui sont représentés. Il ne s'agit pas d'empiéter sur leur plate-bande, mais simplement de venir aussi leur rendre l'hommage qu'ils méritent.
Je suis avec Philippe Perrin sur son stand. Comment s'est passée cette inauguration hier de la TFAF ?
Écoutez, très bien. On a bien travaillé. Les gens sont de très bonne humeur.
Vous avez commencé donc à vendre Vous avez déjà vendu des choses ?
Ah, plein, oui.
Oui. Et est-ce que vous avez eu le temps de faire le tour un petit peu de la TFAF ou pas du tout encore ?
Bien sûr, avant, toujours.
Sur le stand de Philippe Perrin, il y a une paire d'objets absolument extraordinaires. Ce sont des serpents portant le monde avec des feuilles de je ne sais quelle, des feuilles de laurier. Ce sont des sculptures, mais de quelle époque ? Vous n'avez pas mis l'époque et le lieu sur le cartel ?
Non, en fait, ce sont des choses qui sont à la fin du 18e. En fait, ça représente l'immortelle gloire terrestre et l'immortelle gloire céleste. C'est probablement des choses qui ont été faites pour des grands dignitaires, probablement de la marine, parce qu'il y a une longue vue sur le globe céleste. Et à l'époque, moi, les étoiles, c'était la seule chose pour se repérer. Et c'était des objets qui étaient faits pour des bibliothèques, pour des grands érudits ou des grands voyageurs.
École française, c'est français ?
Je pense que c'est français. C'est-à-dire, on se pose beaucoup de questions, on a beaucoup cherché, et on ne sait pas.
Je suis avec Serge Lemoine dans le stand Art de Didivi devant un tableau très étonnant, un portrait du peintre Georges Roman par Gustave Caillebotte. Et Caillebotte, bien sûr, est un artiste qui intéresse beaucoup Serge Lemoine depuis longtemps. Donc, parlez-nous un peu de ce tableau, Serge Lemoine.
Bah écoutez, c'est un tableau en fait qui était connu mais sans avoir été trop vu, qui représente un ami de Gustave Caillebotte qui est un peintre lui-même, Georges Renan. Et donc, On a la chance de pouvoir voir ce tableau sur cette galerie allemande. Et une fois de plus, donc, on découvre une image tout à fait étonnante. Hein. Caillebotte, je crois, est un des grands, grands créateurs d'images, de modèles de la deuxième moitié du 19e siècle. Et tout le monde, bien sûr, a en tête le pont de l'Europe, le Paris temps de pluie, les raboteurs, enfin, etc. Et là, on a donc un portrait dans un intérieur, à l'intérieur parisien, avec quelques accessoires seulement, et on voit comment Caillebotte a su créer son image, premièrement en décentrant son modèle, en le mettant comme ça légèrement, pas dans l'axe, hein. Deuxièmement, en s'approchant très très près du personnage, ensuite en coupant un certain nombre d'éléments du décor, comme la chaise, comme la table, le pied, etc., et puis donc en jouant sur la lumière. Hein. Caillebotte est un peintre qui, comme on l'a vu déjà dès le début avec les raboteurs de parquet, joue du contre-jour, réussit à créer justement par les effets de contraste de lumière des présentations comme ça tout à fait extraordinaires. Et là on voit, en plus avec la pose du modèle qui sort comme ça d'une espèce de, non pas d'obscurité, mais en tout cas d'une lumière vraiment très particulière qui le met en valeur.
Et la couleur est presque un monochrome mauve.
Alors la couleur est vraiment tout à fait étonnante, hein. C'est ce qui ajoute évidemment à la beauté, à l'étrangeté d'ailleurs de cette composition, c'est le côté bleu insistant qui remplit à la fois le motif principal, le rideau de la fenêtre, enfin, etc.
C'est le mur et les papiers peints.
Voilà, et le papier peint. Non, c'est vraiment un tableau tout à fait étonnant. Et alors, avec la technique très particulière de Caillebotte, puisque on voit que c'est une technique non léchée, bien sûr, mais qui en plus n'a rien à voir avec la peinture impressionniste proprement dite. Hein. Caillebotte a une touche à lui, hein, que l'on sent très très bien ici dans ce tableau, dans la façon dont par exemple il a peint la lumière sur la dentelle qui est sur le dossier du fauteuil. On voit très bien le reflet sur la bottine ici, qui est vraiment tout à fait étonnant. Donc voilà, c'est une image vraiment extraordinaire de Caillebotte qui est donnée à voir dans cette galerie.
Je suis maintenant avec Hilliard Golfard, conservateur.
Chef adjoint du Musée des Beaux-Arts de Montréal et conservateur des maîtres anciens.
Voilà. Donc devant un tableau de Gérard David qui se trouve dans le stand d'Adam Williams of Fine Art New York. Et Hilliard voulait absolument nous montrer ce tableau.
Effectivement, parce que c'est rare qu'on peut trouver un des grands maîtres de la fin de la période de l'école de Bruges dans un état absolument impeccable. J'ai regardé le tableau, c'est un panneau sous UV et avec la radio X, on peut voir les underdrawings.
Les uns sous-jacents.
Et la qualité est exceptionnelle. C'est une œuvre qui est dans Friedlander, dans le volume des années 30 et aussi dans le volume des années 70, attribué fortement avec comme un chef-d'œuvre de l'artiste. Mais après qu'on dit toutes ces choses qui impliquent la technique et la qualité, l'état, à la fin, on revient à la peinture elle-même. Et c'est une des œuvres incroyablement lyriques et émouvantes de cet artiste qui était renommé pour un style très lyrique. Et la tendresse...
Juste une chose, comme nous allons, c'est de la radio, mais je mettrai la photo en ligne. Dites-nous en deux mots le sujet.
La tendresse de la Vierge qui est perdue dans sa...
Lamentation.
Lamentation, exactement. Le Saint-Catherine comme vraiment avec... Quelqu'un qui a une mort devant elle qu'elle a aimé et a fait une réflexion pendant qu'elle applique le baume. Et pour moi, la figure la plus émouvante, c'est le Saint-Jean, parce qu'il est perdu dans ses propres pensées pour rationaliser à lui-même ce qui s'est passé. Et ce n'est pas... Alors, le Christ, bien entendu, il y a un gris vert, mais il y a de la tête, mais il y a une tendresse. Et les mains sont extraordinairement délicates dans la présentation. La tendresse des touches, des figures autour du corps. Et le croix est indiqué seulement au coin. Ce n'est pas plein des autres gens. C'est un moment extrêmement intime entre les trois vivants et le Christ mort. Et pour moi, c'est une œuvre incroyablement touchante. L'encadrement est moderne, mais c'est exactement le sort d'encadrement qu'on employait au 15e siècle. Et c'est à Maastricht qu'on peut trouver des œuvres comme ça, comme toujours, des œuvres, par exemple, de Jeyven Heften du 17e siècle, hollandais, qui sont super. Et partout, on peut trouver quelques œuvres. Mais beaucoup d'antiquaires reculent, si vous voulez, les œuvres en attendant Maastricht. Et pour nous, pour les conservateurs, c'est formidable parce que c'est one-stop shopping et on peut regarder toute l'histoire de l'art de l'Ouest, à part des architectes, les autres cultures, mais c'est formidable, c'est un must. Et de temps en temps, on trouve une œuvre comme ça qui est absolument extraordinaire et unique. Il n'y a aucune autre œuvre de early Netherlandish, des primitifs néerlandais comme ça dans toute la foire et pendant quelques années.